quand on entend cette musique, on voit tout de suite les images de la série Big Little Lies. On va parler de cette série, mais de plein d'autres séries de films. Jean-Marc Vallée est avec nous ce matin. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en studio avec nous.
Ça fait plaisir.
C'est vrai que cette musique-là, tout de suite, on voit les images de Big Little Lies 1, 2. Vous avez réalisé la première version. Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette histoire de ces femmes avec une vie toute particulière sur la côte de la Californie, avec leurs petits secrets également? Qu'est-ce qui est venu vous chercher dans ça?
Ben d'abord, c'est une invitation de Reese Witherspoon, avec qui j'avais travaillé. Fait que j'ai un respect et s'est développé une amitié. Alors, j'étais curieux de lire. Et quand j'ai lu, j'ai vu, je me suis dit, oh, wow! Puis en plus, c'était avec Nicole Kidman. Et je trouvais que c'était une belle histoire. Bon, il y avait le mystère, le crime, le meurtre. On cherche à savoir qui a tué, qui est mort. Dans ce cas-ci, en plus, c'est rare dans les whodunit. Donc, je trouvais ça beau derrière le prétexte de jouer au meurtre, au film de meurtre, qui est une étude, un beau regard sur la famille, sur les relations de couple, sur être parent et sur la solidarité féminine de ces femmes-là qui en arrivent à un acte assez fou à la fin pour protéger l'une d'elles. Et donc, c'était touchant.
C'est comme si on passait parfois de moments très superficiels, d'une vie dans une communauté, mais en même temps d'une franchise dans l'amitié, puis vraiment d'une solidarité qu'on n'a pas vue souvent à l'écran.
Oui, c'est vrai. Puis c'est beau de les voir en même temps se déchirer entre elles. Quelques-unes d'entre elles sont ennemies, mais certaines sont amies. Et c'est la vie, hein. Puis. C'était j'aime ça, moi, explorer ça, là, aller faire un film et s'attarder à l'humain, à ce qu'on vit, puis aux sentiments, et faire du film d'émotion, toucher les gens, toucher le cœur, faire rire, tu sais, faire réfléchir en même temps. Là, tu sais, puis,
Quand on regarde la fin de la saison 2, ça peut être la fin, comme ça peut être une porte ouverte pour une saison 3.
Ouais.
Où vous en êtes dans ça?
C'est David Kelley et HBO qui vont décider, et l'auteur aussi. Pour l'instant, il en parle avec un petit sourire, parce que c'était supposé être juste une saison.
Vous aviez dit, je pense, une saison,
c'est assez,
ça peut se régler.
Je trouvais ça beau, moi, cette finale-là, de on les laisse dans leur mensonges, dans leurs secrets, et là, ben. Ils ont décidé d'en faire une série 2 et de voir c'est quoi les répercussions de ce mensonge et comment ils arrivent à garder le secret. Et finalement, on le voit à la fin de la saison 2, qu'elles vont difficilement y arriver. Là. Je vends peut-être un petit punch là, pour ceux qui ne l'ont pas vu.
Non, ça je comprends. Mais donc, c'est possible qu'il y ait une saison numéro 3.
C'est possible, mais s'il y en a une et s'ils veulent m'offrir la réalisation, je ne ferai pas ça moi avant 4-5 ans. Là. J'ai deux projets. Là. Je suis déjà engagé, c'est signé. Là. Je retourne enfin au long métrage où on aura simplement un petit 40 jours de tournage et ce ne sera pas le marathon.
Mais vous avez été plus impliqué que prévu dans la série numéro 2, non?
Ah oui, je n'étais pas supposé être impliqué comme ça. Là. Et à la dernière minute, là, ils m'ont demandé de venir les aider, les producteurs, HBO. En plus, j'étais dans ma pause parce que moi, depuis 2012, je n'ai pas arrêté. Les projets se sont chevauchés et donc j'étais crevé. Et puis là, ben, ils commençaient leur producer Scott. Et on dit, on appelle Jean-Marc, voir. Puis je leur ai dit, je vous donne un mois. Tandis que la réalisatrice allait tourner le matériel supplémentaire qui avait été écrit. Et puis finalement, je me suis retrouvé à faire un 4 mois, à aider au montage. Ils m'ont demandé de ramener l'équipe de la saison 1. Elle est partie, la réalisatrice, après le tournage. Là. Fait que j'en ai fait plus que prévu. Et puis je suis rentré là-dedans, là, avec les meilleures intentions du monde, là, à aider la famille, tous ces gens-là que j'aime, y compris la réalisatrice, et puis voilà. Ouais.
Parlons d'une autre série qui était aussi singulière, Sharp Objects. Encore une histoire de famille, évidemment, des relations entre une fille, cette relation très particulière. Comme spectateur, on regarde ça, là, on se dit, mais comment on fait pour diriger des actrices, je pense à Amy Adams, entre autres, là. Mais dans des rôles comme ça, il y a quelque chose, j'imagine, d'épuisant, peut-être pour vous, là, mais pour les acteurs, les actrices qui jouent ça, on n'est pas dans un scénario banal, léger. Là.
Ouais. Non, elle sortait vraiment de sa zone de confort et ça a été extrêmement difficile pour elle là, de camper ce personnage-là. Elle avait la chienne, comme on dit en bon québécois, là, et ça paraissait, c'était difficile. Moi, j'ai voulu l'accompagner. Ça, encore une fois, c'est une invitation. Ce ne sera pas le genre de matériel que je choisirais là, d'emblée là, à lire le roman. Là. Je dirais, ah, ouais, c'est beau, mais est-ce que je ferais ça? Moi, je ne suis pas sûr. Mais comme elle voulait le faire, et on était déjà engagé sur un truc qui n'a pas fonctionné finalement, là, le film sur Janis. Et puis, elle dit, lis ça, voir, dis-moi si ça tente de venir faire la télé avec moi. On n'a jamais fait ça. J'ai d'ailleurs dit oui à Amy avant de dire oui à Reese et Nicole. Pour faire toute la série de Sharp Objects, j'ai dit, si t'es prête à faire ça, moi, je veux voir ça. Là. Je vais être le premier public à voir ce que tu vas faire avec ce personnage.
Mais comment vous les amenez à sortir de leur zone de confort?
Écoute, j'ai peu à faire, hein, parce qu'elles sont tellement professionnelles et elles s'engagent tellement, elles se donnent tellement, sont tellement passionnées qu'ils font leur devoir, là, ces gens-là. Là, c'est les Amy Adams de ce monde. Alors, et elles arrivent et... C'est très étudié, c'est très cérébral. Surtout elle a un processus là où tous les matins, je passais une petite 20 minutes, 30 minutes dans sa roulotte à questionner la journée et ce qu'elle avait à dire et à faire. Et on revenait au roman pour challenger le matériel du scénario et pourquoi ces répliques-là. Déjà, on revenait au roman, des fois on trouvait des trucs et des fois on se disait « OK, essayons de faire cette page-là dans le roman aussi si on a le temps. » Non seulement les pages du scénario, mais on se dit, faisons-en plus, on en fait plus. Mais par contre, une fois que c'est analysé, réfléchi, on en parle et a besoin d'en parler, moi, j'étais surtout à l'écoute.
Mais sentez-vous, plus le tournage avance, plus une fatigue physique, une fatigue morale de l'actrice?
D'explorer les zones sombres comme ça, là, de l'âme humaine et la souffrance et la douleur. Là. C'est quelqu'un de vraiment troublé et de blessé. Là. Et elle avait été victime d'abus dans son enfance et elle est devenue une cutter, elle se mutile et là, elle essaie de se guérir de ce problème-là. En plus, elle est alcoolique, elle est quasiment sex addict et elle a tous les défauts du monde. Et malgré ça, on aime la suivre. Et elle a un regard sur la vie qui est assez particulier. Et c'est ça qui était beau dans le roman. Et la difficulté, le challenge était... La qualité du roman, c'est son monologue intérieur et tout. Comment cette femme-là voit le monde et comment elle parle de ses blessures, de sa façon de se mutiler, de sa sexualité, de sa mère, de sa sœur, de ses amis. C'est tellement particulier. Gillian Flynn, elle a tellement une imagination, le flyer, et en même temps, ça peut être douloureux. Mais ça reste que, tu vois qu'il y a de l'espoir un peu, parce que ces femmes-là essaient de s'aimer. Elles ne savent pas. Elles se sont blessées. Elles se sont, surtout de génération en génération, et la mère qui a cette maladie-là, Munchausen by proxy, en anglais, elle ne s'en rend pas compte. Là. Elle ne s'en rend pas compte qu'elle blesse et qu'elle fait mal et qu'elle abuse ses enfants. De suivre cette famille-là, victime d'abus, c'est déchirant, ça brise le cœur, mais en même temps, tu vois qu'il y a un désir d'essayer de se rapprocher et de comprendre et d'essayer de s'aimer. Et moi, je me suis accroché à ça, Amy aussi. Et quand je dis que c'était difficile, c'est difficile sur le moral et c'est difficile au quotidien de gratter le bobo là, jusqu'à temps là, que ça fasse mal. Et c'est ça un peu, là, Sharp Objects, c'est sombre. Mais dans l'obscurité, il y a un petit peu de lumière et de beauté. Et on la trouve par moments.
Notre invité ce matin, Jean-Marc Vallée. Bon, il y a eu Crazy au Québec, puis après ça, cette carrière absolument exceptionnelle aux États-Unis. Je pense à Dallas Buyers Club. Je pense que le budget de production n'était pas très élevé et le box-office final était spectaculaire. Sans doute un des films les plus rentables, j'imagine, pour les producteurs.
Ouais. Pour moi aussi, finalement.
C'est vrai.
On a signé ça, là, mais quand les acteurs, moi, les producteurs, là, quasiment différés, là, et avec un petit cachet, puis une part sur... Si le film marchait, là, on allait avoir une part plus importante. Et c'est ce qui est arrivé parce que je suis même parti de Montréal. J'ai payé mon billet d'avion, le Mathieu aussi. Là, puis, On voulait le faire, il était prêt, il avait perdu son poids. Puis, on n'avait pas de distributeur qu'on a tourné. Là. C'est un film à 4 point quelques millions, là, près de 5, et, américain, et qui s'est fait en 25 jours. Puis, on ne savait pas, on ne sait jamais hein, quand ces succès-là. Scared Crazy, on ne savait pas non plus. Là. On tournait Crazy ici, on espérait, on le sentait, surtout. Michel n'arrêtait pas d'en parler, Michel Côté, là, je pense que ça va marcher. C'est bon, hein? J'ai l'impression que c'est un des meilleurs rôles de ma carrière. Puis il faut l'entendre parler. Puis, et on le souhaitait, là, on le souhaite, mais c'est pas toujours le cas. Et quand ça arrive, là, ouais, t'es content. J'ai encore des belles redevances qui arrivent de temps en temps. Et,
mais ça a généré ça combien là, pour 5 millions de budget? Ça...
Je pense qu'on est rendu à 100 quelques millions là, à travers le monde, dans tous les marchés, tous les territoires.
On sait qu'au Québec, quand on fait un film, il y a beaucoup les institutions, on pense à la SODEC, on pense à Téléfilm. Quand on est du côté américain, ça se passe avec le privé, l'industrie privée. Voyez-vous de grandes différences entre les deux?
Ça se passe peut-être plus rapidement dans les décisions pour embarquer sur un projet. Ici, comme on doit attendre un oui, un go de Téléfilm, mais pas nécessairement un go de la SODEC. T'sais. Les gens se parlent. Tandis que là-bas, on dirait, comme ça vient d'une place, au lieu d'avoir deux sources de financement, provincial, fédéral, ça vient pas. T'sais, tout est privé, puis ça vient de la même gang. Là. Donc, c'est peut-être plus rapide. Là. Entre autres, Dallas, quand le fric a débloqué, là, c'est parti vite. Là. Puis la plupart des projets, là, quand HBO a dit oui à Reese et Nicole et que j'embarquais, bang, ça part et ça part vite. Et ils ont des moyens. Ils ont des moyens. Il y a des mécènes aussi. Là. Tu vois, faire un court-métrage, là, quand je faisais mes courts-métrages ici, quand j'ai commencé, on faisait les demandes à SODEC et au Conseil des arts et ça prend un certain temps, puis là, on a des subventions. Mais faire un court-métrage là-bas, là, pour un jeune qui commence, là, n'aura jamais cette chance-là et ce genre de budget-là. Fait que j'ai fait, moi, les fleurs magiques, stéréotypes, les mots magiques, avec une structure financière de 100 000 à peu près. Là-bas, ils font des courts-métrages à 10 000, 5 000, 20 000, et c'est des mécènes qui embarquent, là. C'est des gens fortunés. Ici, on n'a pas cette tradition-là, puis on n'a pas ce genre aussi de bassin-là, de millionnaires, il y a du fric aux États-Unis. Surtout à Los Angeles, en Californie, là, il y a du fric. Et c'est glamour, ça attire ces gens, ça attire les fortunés qui veulent faire partie de l'industrie. Et certains d'entre eux ont des intentions de bien faire là-dedans et de servir l'art et de servir vraiment des beaux projets qui peuvent faire la différence.
Exemple, vous dites, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'argent, mais trouvez-vous parfois qu'au cinéma, on a beaucoup de films, comme on dit, de séries, là, les Avengers, puis des films. Est-ce qu'il y en a trop de ça? Des fois, on est comme nostalgique d'un certain cinéma différent, où il y avait plus de variété. C'est comme si on est dans une espèce de répétition perpétuelle.
Non, on vit une transformation. Là, et le cinéma s'adresse surtout aujourd'hui en salle aux adolescents et aux enfants. Là. Le cinéma d'adulte, on le retrouve plus à la télé là, et sur à Netflix, sur Amazon, sur maintenant bientôt sur Apple. Il y a des nouveaux joueurs et la ligne est de plus en plus fine entre cinéma et télévision aussi. Là, mm-hmm. Et donc, le cinéma d'émotion, le cinéma de personnages, il y en a encore un peu, mais c'est difficile de trouver un public et d'être rentable. Les salles, les propriétaires de salles ont tous les films de super-héros et les Marvel et les DC Comics de ce monde et les Joker et compagnie. Les chiffres sont plus forts que les intentions et que l'art. Désolé, je dois débarquer ton film. Je sais qu'il est très bon, là, mais j'ai un nouveau Marvel qui arrive et mes adolescents vont venir, vont débarquer, vont acheter le popcorn.
Un jour, Brian Mulroney m'a dit, quand il est devenu premier ministre du Canada, il s'est retrouvé dans une salle avec les autres leaders du G7. Il dit, t'as beau être premier ministre, là, élu, t'es impressionné. Parce que tu as vu ces gens-là à distance, tu as parfois admiré ces gens-là, et tu développes au fil du temps des relations personnelles avec les leaders du monde entier. Vous, quand vous débarquez là, aux États-Unis, puis vous nous parlez de Nicole, c'est Nicole Kidman, Reese et Reese Witherspoon. Étiez-vous intimidé, impressionné au départ, ou si ça a coulé de source?
Non, je le suis toujours un peu, surtout dans les premières rencontres. Et ensuite, je me pince un peu quand je me retrouve aux Oscars ou aux Emmys avec tous ces gens-là. Et j'ai des acteurs célèbres que je connais pas qui m'abordent et qui m'accostent. Et j'aimerais ça que nos chemins professionnels se rencontrent, Jean-Marc. Et je, ah, moi aussi, oui, moi, beaucoup. Je me pince. Je pense que je vis quelque chose d'exceptionnel, d'assez unique. Je me trouve chanceux et privilégié. Et oui, je le suis toujours un peu intimidé. Toujours un fan ou un petit gars là, qui, quand il arrive, quand j'arrive sur le plateau et qu'on commence à travailler, c'est un peu intimidant, mais ça part vite parce qu'on est dedans, puis on veut bien
faire, plonge.
Puis on plonge, puis on travaille, puis, là, ça, puis on devient ami, puis ça devient facile.
Et le film va porter sur quoi?
Le prochain, mm-hmm. sur John Lennon et Yoko Ono, sur leur histoire d'amour, qui se met exclusivement. Mais comme leur histoire d'amour, comme leur côté militant, leur projet commun, parce qu'elle lui a dit à un moment donné, écoute, faut qu'on ait un projet commun, là, parce que toi avec ton rock, moi avec mon art, chacun nos affaires, on se voit plus, qu'est-ce qu'on fait? Ça nous prend un projet pour qu'on travaille, qu'on cultive le couple. Et on dit, ah, puis les deux aimaient la paix. Ils se sont mis à militer pour la paix dans le monde et ça a pris plus d'ampleur. Ils ont quasiment fait une parenthèse sur leur carrière respective pour tout à coup servir ce projet commun-là et d'être des disciples de la paix. Donc, le film a porté beaucoup là-dessus. Franchement, ça va être un de mes films les plus politiques.
C'est vrai.
Étrangement. Même si le mandat est de servir l'histoire d'amour.
L'amour et la politique, parfois. La frontière est mince. Jean-Marc Vallée, merci beaucoup d'être venu ce matin. Vraiment apprécié.
Ça fait plaisir.
On fait une pause 9h39. On revient après pour la suite.